Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de cette édition, au Moyen-Orient, des Israéliens ont commencé à s'installer dans la colonie de Kadim, en Cisjordanie occupée, selon un conseil local de colons. Le gouvernement espagnol a annoncé la création de centres d'hébergement pour 1800 migrants à Ceuta pour soulager la crise humanitaire. Et Météo France a placé 3 départements du sud-est du pays en vigilance orange pour des orages. La Corse passera au même niveau d'alerte demain matin. Nous l'avons évoqué dans les titres dans l'actualité au Moyen-Orient. Des Israéliens ont commencé à s'installer aujourd'hui dans la colonie de Kadim en Cisjordanie occupée, selon un conseil local de colons. Il s'agit de la dernière des 4 localités évacuées par Israël en 2005 à être repeuplée. Le ministre israélien de la Défense accuse le président turc Recep Tayyip Erdogan d'entraîner la Turquie dans de dangereuses aventures en Syrie. Israël a frappé une base aérienne syrienne et estime que le déploiement de troupes turques sur place constituait une menace. Une accusation fermement démentie par Ankara. Les précisions avec vous, Inagil.
Et oui, mardi, des avions de combat israéliens ont bombardé un aéroport militaire hors service dans le nord-est de la Syrie. Benjamin Netanyahou a affirmé que la Turquie cherchait à y établir une présence militaire. L'accusation, vous l'avez dit, Nawal, a été démentie par la Turquie. La présidence turque affirme qu'elle continuera résolument de protéger la souveraineté de la Syrie et qu'elle ne tombera pas dans le piège tendu par le premier ministre israélien. Après cette frappe israélienne, les tensions continuent de monter. Aujourd'hui, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, est monté au créneau. Il a affirmé sur X que Israël ne permettra à aucune entité de menacer sa sécurité, je cite. Et dans le cadre de la campagne pour sa réélection, Benjamin Netanyahou a fait afficher des photos de plusieurs dirigeants, dont le président turc Erdogan, avec la mention ils veulent voir perdre Netanyahou. Les relations entre la Turquie et Israël sont historiquement très complexes. La Turquie a été le premier pays majoritairement musulman à reconnaître l'État d'Israël et les deux pays entretiennent des relations commerciales solides, même si Ankara a dit pendant la guerre à Gaza vouloir y mettre fin. Mais les récentes années, les tensions montent de manière insidieuse. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fortement critiqué la guerre menée par Israël à Gaza après l'attaque du 7 octobre. Les relations se sont encore détériorées après les interceptions brutales par Israël d'une flottille venue de Turquie qui cherchait à acheminer de l'aide à Gaza. Et puis le président Erdogan a autorisé les dirigeants du Hamas à vivre en Turquie. Les deux pays sont en rivalité depuis plusieurs années, notamment pour le contrôle de la Méditerranée orientale qui regorge de réserves de gaz. Depuis la chute de Bachar al-Assad, la Syrie est devenue un nouveau terrain de conflit procuration. Les joutes verbales entre les dirigeants des deux pays sont elles aussi de plus en plus fréquentes. Une montée des tensions inquiétante. Les deux pays sont des puissances militaires régionales et la Turquie, membre de l'OTAN, jouit de bonnes relations avec les États-Unis, dont l'ambassadeur à Ankara a condamné les frappes israéliennes. Certains chercheurs spécialistes de la région s'inquiètent. Les deux puissances régionales pourraient à terme entraîner la région dans leur rivalité.
Merci Inès Gilles pour toutes ces précisions. On reste au Moyen-Orient, pas d'apaisement en vue entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a menacé de terribles mesures économiques tout pays qui aiderait l'Iran dans son effort de guerre. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a critiqué les déclarations du président américain et parle, lui, de politique vouée à l'échec. Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont annoncé avoir visé en Arabie Saoudite, dans la ville de Najran, un aéroport et une installation appartenant à la compagnie pétrolière nationale, l'Aramco. Et l'armée américaine a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau porte-avions dans la région, en remplacement de l'Abraham Lincoln, dont le long déploiement en mer depuis des mois avait suscité des inquiétudes sur les conditions de vie de l'équipage. Dans le reste de l'actualité internationale, la Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles balistiques selon l'armée sud-coréenne, quelques heures après que Donald Trump ait affirmé qu'il rencontrerait le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un cette année. Et en Ukraine, une nouvelle nuit de bombardements russes a fait au moins 16 morts à Kiev et dans sa région. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky Zelensky affirme que Moscou investit dans des missiles balistiques. En Belgique, l'incendie des Hauts-de-Fagne déclenché vendredi dans l'est du pays est désormais contrôlé dans son ensemble, mais nécessite encore une surveillance active compte tenu de la nature du sol. Le gouvernement espagnol a annoncé aujourd'hui la création de centres d'hébergement pour 1800 migrants à Ceuta pour soulager la crise humanitaire depuis l'arrivée massive de migrants provenant du Maroc le mois dernier. On fait le point avec vous sur la situation, Inagil.
Et oui, Nawal, 72 000 migrants avaient franchi la frontière les 30 et 31 juillet dernier. Un afflux inédit et meurtrier vers ce territoire espagnol en Afrique du Nord. Depuis, 70 000 d'entre eux sont retournés au Maroc, selon les chiffres du gouvernement espagnol. Mais ceux qui sont restés, dont des enfants non accompagnés, qui ne peuvent pas être expulsés, peinent à accéder à la nourriture, à l'eau, à un abri et à des installations sanitaires. Les capacités d'accueil de l'enclave sont débordées. De nombreux migrants ont passé les trois dernières semaines à dormir dans les rues ou sur la plage. Des ONG alertent sur la situation des femmes et des filles particulièrement vulnérables. Et de leur côté, les habitants de Ceuta se plaignent de problèmes d'insécurité et d'hygiène liés à ces personnes sans abri qui errent dans les rues. Des habitants qui accusent le gouvernement de négliger leur territoire. Les ministères espagnols des migrations a indiqué aujourd'hui que deux nouveaux centres qui viennent d'ouvrir constituent des structures d'accueil temporaires qui seraient progressivement agrandies grâce à des travaux d'aménagement. Le but principal du transfert volontaire vers ces centres est d'offrir une solution d'hébergement et un lieu d'accueil alternatif pour que les migrants n'aient plus à passer la nuit dans les rues ou sur la plage, selon le ministère. L'avenir de ces migrants a déclenché une bataille politique entre, d'un côté, le gouvernement central de gauche et, de l'autre, les régions dirigées par le principal parti conservateur, le Parti populaire, parfois avec le soutien du parti d'extrême droite Vox, qui refuse d'accueillir des mineurs isolés selon les dispositions légales espagnoles. En Espagne, les expulsions massives de mineurs sont illégales, a déclaré la secrétaire d'État à l'enfance Rubén Pérez Correa. Le gouvernement entend notamment transférer 500 jeunes filles vers l'Espagne continentale.
Merci Inès Gilles pour toutes ces précisions. Et dans l'actualité en France, la France insoumise compte défendre à l'Assemblée nationale l'interdiction de certains pesticides réintroduits sous condition par la loi agricole qui a été promulguée en France le 18 août dernier. Une annonce de la présidente du groupe Mathilde Panot chez nos confrères de France Inter.
Nous vous annonçons ce matin que nous utiliserons notre niche parlementaire pour abroger cette loi poison qui a été faite, c'est-à-dire le fait de réintroduire deux néonicotinoïdes qui attaquent le cerveau des enfants. Je rappelle que l'année dernière, il y avait 2,2 millions de personnes qui avaient signé une pétition contre la réintroduction des néonicotinoïdes. Je rappelle que l'Ordre des médecins et plusieurs sociétés savantes ont dit qu'il ne fallait pas reproduire le scandale, notamment du chlordécone et de l'amiante. Le danger grave sur l'agriculture, ce ne sont pas les pesticides. Les dangers graves pour l'agriculture, ce sont les accords de libre-échange que les macronistes ne cessent de signer et c'est le fait qu'on ne protège pas les agriculteurs d'une concurrence déloyale. Je vous donne un exemple. Dans la loi d'urgence agricole, nous avions fait voter un amendement qui permettait d'interdire toute importation de produits en France traités avec des pesticides interdits dans notre pays, ce qui semble être de bon sens. Eh bien, le gouvernement l'a enlevé. Et sur la question des néonicotinoïdes, des pesticides, l'Assemblée nationale a été empêchée de voter. Donc c'est un scandale sanitaire, c'est un scandale démocratique. Et le 29 octobre, à l'Assemblée nationale, nous le ferons voter.
Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et nous en avons parlé ces derniers jours, près de 700 000 contribuables ont été touchés par les piratages du fisc cet été. Ce mardi, le fisc a annoncé une troisième fuite sur les données liées aux successions. Une fuite rapidement coupée, mais déjà ces cyberattaques posent la question de la sécurité informatique en France. À notre micro, Akram Azam, chef du pôle cybersécurité chez CIA Partners.
Le pays est plus attractif pour des cybercriminels et des hackers que les autres pays parce que la France, c'est une puissance économique, c'est une puissance politique, géopolitique, une puissance nucléaire. Et aussi, de par la construction de son administration de manière historique, il dispose de bases de données ultra centralisées, enrichies, maintenues dans le temps.
Les citoyens concernés doivent-ils s'attendre à des conséquences concrètes dans les prochains mois ?
Donc là, bien sûr, en fait, la procédure judiciaire judiciaire qui est ouverte, c'est principalement pour identifier les rôles et responsabilités, de reconstituer les faits, d'essayer d'identifier ce groupe de cybercriminels. C'est quelque chose qui peut aboutir, mais que ça prendra beaucoup de temps. Et généralement, c'est très difficile derrière l'anonymat numérique d'identifier qui que ce soit. Les citoyens, les utilisateurs dont les données ont fuité, malheureusement, ça ne leur ramène rien parce qu'il y a aujourd'hui un vide juridique où l'État, même si ça a été responsable par exemple d'une fuite de données et que ces données-là ont été utilisées à l'insu d'une personne pour commettre une fraude, une usurpation d'identité, il n'y a rien qui protège cette personne-là. Elle va devoir faire aussi ses démarches administratives, légales, engager des frais de justice. Il n'y a pas de protection pour ces personnes-là dont l'État ne s'est pas montré à la hauteur de la protection de leurs données.
Akram Azam, chef du pôle cybersécurité dans le cabinet de conseil SIA Partners. Il sera l'invité d'Inès Gilles dans l'émission Grand Angle après le flash de 18h. Et enfin, la vague de chaleur qui a débuté fin juillet en France s'est poursuivie jusqu'à mercredi au moins et devient la plus longue ex aequo avec celle de juillet 1983 selon Météo France. L'organisme a placé 3 départements du sud-est du pays en vigilance orange pour des orages, tandis que la Corse passera au même niveau d'alerte demain matin. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.